Vous m'en direz des nouvelles.
Marjorie Bertin,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Sur la scène du théâtre public de Montreuil, des stalagmites et un échafaudage. Nous sommes dans un musée d'histoire naturelle. S'y confrontent trois personnages, deux employés et un paléontologue qui nous immerge en pleine préhistoire. Ils ne sont pas d'accord sur les chasseurs-cueilleurs. Nos ancêtres qui se sont sédentarisés avec l'arrivée de l'élevage et de l'agriculture. Qui étaient-ils? Que pourraient-ils nous apprendre? Trois musiciens et trois comédiens nous livrent depuis leur grotte, quelques pistes de réflexion. Paléolithique Story, comment avons-nous pu nous retrouver si coincés? C'est le titre de cette comédie malicieuse mise en scène par Mathieu Bauer, une pièce musicale écrite sur mesure par Marion Stanton et Lazare Bogossian. Avec nous, Mathieu Bauer et le comédien Romain Pajard. Paléolithique Story, c'est jusqu'au 1er avril au Théâtre Public de Montreuil et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci, bonsoir. Merci d'être avec nous, d'autant que vous serez sur scène juste après notre entrevue. Et alors, donc Mathieu Bauer, vous êtes aussi sur scène dans ce spectacle. Vous y sifflez, vous jouez de la trompette, vous jouez de la batterie. Romain Pajard, vous y êtes acteur, vous jouez l'assistant du paléontologue joué par Gianfranco Podighe, qui a des idées arrêtées sur les chasseurs-cueilleurs, ce monsieur, les fameux hommes préhistoriques. Mais pour commencer, je me demandais, dans votre imagination, dans vos imaginaires à tous les deux de petits garçons, c'était quoi la préhistoire?
Ah, ça c'est marrant.
C'est vrai, c'est une très bonne question.
Et ben, c'est pas tout à fait ce qu'on a fait là.
Je crois que c'est Romain Pajard.
Oui, je crois que mon imaginaire de petit garçon, c'était les tenues quand même, les tenues en peau de bête. Je crois que c'était ça qui revenait en premier. Comme tu m'as parlé du projet, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir des peaux de bête? Et finalement, non, c'est pas tout à fait ça.
T'avais peur même un petit peu, tu m'avais dit oh, Mathieu quand même je veux pas trop un costume.
Ah mais c'est réussi.
Oui mais on a tout misé sur les costumes. Non.
Et vous Mathieu Bauer, c'était quoi?
Je sais pas, quand j'étais, est-ce que je rêvais de ça? Non, je pense que j'étais plus déjà ancré dans un espèce d'imaginaire qui était lié un peu au cinéma, donc le western un peu plus quoi. Je me suis plus identifié à des cow-boys, etc. Et puis après peut-être ma première image de préhistoire, c'est Buster Keaton dans Les Trois Âges, puisque ouais. J'avais l'habitude de regarder souvent les Buster Keaton, enfin en tout cas mes parents m'ont initié à cet art-là. La preuve, j'ai fait aussi un spectacle sur Buster Keaton, comme quoi tout remonte déjà de très très loin. Et donc peut-être dans Les Trois Âges, Buster Keaton avec sa peau de bête et sa grosse massue et voilà, oui, il mélange puisqu'il y a des dinosaures et puis tout ça, évidemment, on n'a jamais cohabité avec les dinosaures.
Enfin, non, tout cas, pas tellement.
Voilà. Mais bon, peu importe, il y avait quand même un brontosaure sur lequel il regardait au loin s'il ne pouvait pas aller rencontrer la femme de sa vie.
Et il y avait des dessins animés aussi après, plus tard, ou des BD qui ont nourri votre imagination?
Non, pas trop. Les pierres à feu, tout ça. Oui, les pierres à feu, là. Je n'ai pas trop regardé. Silex and the City, mais ça, c'est bien après. Enfin, peut-être ma fille les a regardées. Il faudrait que je lui demande.
Les pierres à feu, oui, je crois que ça me revient un petit peu. Mais je n'étais pas très familier, je crois, de ce monde de la préhistoire et des hommes de Cro-Magnon. C'est vraiment avec ce spectacle que j'ai découvert un peu tout ça.
Mais Mathieu Bauer, qu'est-ce qui vous a donné envie? Est-ce que c'est ces souvenirs de Buster Keaton de vous emparer
non,
de la préhistoire?
Pas du tout, c'est plutôt l'anthropologie. Et puis c'est un certain nombre d'ouvrages sur lesquels je suis tombé et puis qui m'ont passionné, et dans lesquels je me suis un peu perdu. Enfin, je me suis plongé dedans et je m'y suis un peu perdu avec délectation parce que ça vous ouvrait des espaces de réflexion sur d'autres mondes, sur d'autres pratiques, comme ça, mais voilà.
C'est quoi ces ouvrages?
Il y a Alain Testard, avant l'histoire, qui a été assez très important, qui a été un anthropologue, mais spécialiste préhistorique de la préhistoire, quoi. Et puis après, il y a eu Marshall Salins, après il y a eu Alain Testard, et puis de fil en aiguille, comme ça, je me suis un peu plongé dans ce monde-là. Il y avait une chose un peu plus intime, là, pour le coup, qui était la passion aussi que j'ai partagée, moi, avec ma famille, là, pour le coup, mais plutôt de cueilleurs en tout genre. J'ai une passion pour la mycologie et les champignons depuis de nombreuses années. C'est vrai que je me suis souvent perdu dans des forêts, aller à la rencontre de divers champignons. J'aimais bien cette métaphore aussi de la promenade. enfin, de la cueillette comme ça, où on ne sait pas exactement ce qu'on va chercher, ce qu'on va remplir, comment on va remplir son panier. On va dans une forêt, on se laisse faire, j'ai envie de dire, par une certaine façon, la topographie de la forêt. On va à gauche, on va à droite, on sort des sentiers battus, on retrouve le sentier, on ramène des coulemelles, on ramène des girolles, on tombe sur des cèpes, etc. Donc tout ça me plaisait énormément, et c'est vrai que par rapport au travail, alors, en tout cas de la compagnie, il y avait une sorte de similitude, il y avait quelque chose qui ressemblait assez étonnamment à la façon dont j'ai de procéder avec depuis de nombreuses années, que ce soit enfin en tant que metteur en scène, mais avec Sylvain Cartini aussi, qui est un acolyte et vraiment qui co-signe toutes les, enfin qui co-signe pas, mais qui est vraiment un, voilà, quelqu'un avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Et il y a une façon d'aller comme ça, effectivement, butiner. Il y a un anthropologue qui m'a dit l'autre jour, ah, butiner, c'est pour faire des butineries.
C'est ça très m'a
bien
mignon.
Plu. Oui, mais ça m'a bien plu. Donc, en butinant, on arrive à faire peut-être formenter des butineries. Et voilà, et d'aller comme ça puiser dans différents textes qui m'ont inspiré, enfin, en tout cas, qui m'ont énormément excité. Parce que le spectacle est à la fois, je crois, hein, en tout cas, parce que j'ai toujours du mal à en parler de façon très objective, mais à la fois assez profond. Enfin, en tout cas, il y a des sujets en creux qui sont de l'ordre du politique, réellement, et le sous-titre est une référence à ce politique. Et puis, il y a une forme de légèreté à l'intérieur du spectacle pour circuler à l'intérieur de ces différentes idées qui est,
vous posez aussi des jalons historiques. Le paléolithique a commencé en Afrique il y a environ 3 millions d'années. Il s'est terminé il y a environ 12 000 ans. C'est énorme. Ce que vous montrez, c'est la période qui se situe entre le paléolithique supérieur et le néolithique, soit une période de 35 000 à 6 500 ans avant notre ère. Ça donne le vertige. Pourquoi précisément cette période ?
C'est quand même sur cette période qu'on a le plus de renseignements, il faut être bien clair, sinon avant on a quand même très très peu de traces, et à partir de ce moment-là, bon, il y a l'art pariétal, il y a l'art mobilier, il y a les premières sépultures, il y a les premiers campements qui ont été retrouvés, il y a des artefacts, il y a des outils, enfin voilà, tout un tas de choses qui nous permettent à un moment donné, enfin qui ont permis à des préhistoriens ou à des anthropologues de commencer à formenter, enfin à imaginer des hypothèses sur la façon dont nos ancêtres ont vécu. Et après tout le débat, et c'est le débat en tout cas, c'est est-ce que le néolithique a été ce point de rupture, cette bifurcation sur laquelle on ne pourra jamais revenir en arrière, où on a commencé à se sédentariser et par de fil en aiguille à créer des formes d'État, enfin des formes d'organisation sociale qui sont celles qu'on continue de... Voilà, qu'on continue de fabriquer aujourd'hui, très pyramidal, avec une autorité, des chefs, la bureaucratie, une police, des religions, etc., etc. Et en creux, la question de la naissance des inégalités sociales à l'intérieur de ça, à un moment, effectivement, aujourd'hui, où les inégalités sociales n'ont jamais été si prégnantes, présentes, absolument insupportable. Donc il y avait une façon de prendre du recul comme ça pour voir quelle bifurcation on a pris à un moment donné, nous, sapiens, pour tomber dans ce traquenard qui est effectivement, qui est devenu aujourd'hui pratiquement, on voit bien dans le discours de ceux qui nous gouvernent, quoi. C'est le capitalisme est devenu pratiquement l'horizon indépassable de la civilisation. Et là, il y a quelque chose dans lequel moi j'ai envie de m'inscrire en faux. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a un certain nombre d'anthropologues, suite à de nombreuses découvertes qui ont été faites, disent « mais non, ça n'a pas été comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça, et ce n'est pas une fatalité. On peut faire des choses différemment, et les organisations sociales peuvent très bien avoir d'autres formes. Elles peuvent être plus poreuses, plus plastiques, plus modulables, selon les saisons, selon les régions, enfin, etc. » Et là, ça crée comme un appel d'air, enfin, des possibles.
Ouais.
Et ça devient très enthousiasmant de reconfigurer, de repenser les choses un peu comme ça. Donc,
alors,
c'était un peu ça le point de départ. Et il y a quelqu'un quand même, que je n'ai pas cité, mais qui a été très important, qui est un anthropologue plutôt d'obédience un peu anarchiste.
Tiens, pardon, tiens.
Qui s'appelle David Gray, qui nous a quittés malheureusement il y a un an et demi, et qui a écrit d'abord un article qui a été très important pour nous dans la revue Le Crieur. Et puis ce gros bouquin qui s'appelle Au commencement été, qu'il a co-signé avec David Vengros, où il fait effectivement part d'un certain nombre d'hypothèses, parfois un peu farfelues, hein, qui s'éloignent de... Parce que c'est une science aussi, donc évidemment les purs et durs de l'anthropologie ou de la préhistoire lui tombent dessus. Et lui, il le revendique, c'est-à-dire cette liberté d'interprétation qu'il a par rapport à des éléments, il la revendique dans le sens où ça ouvre encore une fois d'autres récits, sur d'autres récits. Et c'est un peu ces autres récits qu'on cherche au travers de Paléolithic Story.
Et alors justement, un scientifique, il y en a un dès le début du spectacle, donc il y a trois musiciens, je le disais, et puis il y a trois personnages qui travaillent dans ce musée, donc juché sur un échafaudage dont il ne veut plus descendre, il y a un paléontologue désabusé. En bas, vous, Romain Pajard, vous le suppliez de redescendre, vous êtes très nerveux. Lorsque surgit, comme si ce n'était pas déjà assez suffisant, une nouvelle recrue jouée par la pétillante Emma Liégeois. Et le moins qu'on puisse dire, Romain Pajard, oui, c'est quand même, vous n'êtes pas très, 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 très sympathique et accueillant.
Cinque. Dieci.
Encore un peu, hein.
Venti.
Ben là, c'est pas mal.
Trenta.
Oh, pardon.
Trenta sei. Quaranta tre.
Qu'est-ce que vous faites, vous?
Qui, moi? Je mesure. Enfin, si vous voulez bien, j'ai une idée pour mettre quelque chose à la place de votre bison.
Hein? Mais de quoi vous mêlez-vous, vous? C'est qui, elle?
Qui?
Vous?
Moi?
Elle. Mais vous sortez d'où, vous?
Et je viens prendre le poste de guide documentaliste.
Le poste de documentaliste? Où sont les candidats?
Eh bien, il n'y a que moi.
Vous?
Oui, moi.
Oh, professeur, hein? Elle a marché sur le carré.
Qui?
Elle.
Moi?
Elle a marché sur le carré de l'agriculture. Et elle a fait une trace de doigt, une grosse trace de doigt sur la vitre de l'homme de menton.
Mais c'est qui, lui?
Et elle a posé son manteau sur une stalagmite.
Vous, je me souviens. Ah. Moi, je vous avais refusé.
Ah bon?
Oui, vous, j'avais refusé votre CV. Vous êtes celle qui n'a pas fait d'histoire.
Mais j'ai fait un an d'histoire.
Mais je ne peux pas engager dans mon musée quelqu'un qui n'a pas fait des réelles études historiques.
Non.
Nos visiteurs viennent écouter des experts.
Vos visiteurs viennent écouter des histoires. Et j'en connais plein, moi, des histoires. Et des chansons.
Ah, art mineur.
Comprendre les sociétés d'avant. Ah, ça ne peut pas être seulement collectionner les informations, hein. C'est essayer de savoir quelles histoires ils se... Ah, oh, racontaient.
Voilà.
Je sais pourquoi vous êtes triste. Tout vous paraît petit. Mais c'est parce que vous voyez tout d'en haut, hein. Il faut voir tout d'en bas. Ou à l'envers. Enfin, jamais d'en haut. Si on voit tout, c'est déprimant. Il faut être un peu aveugle dans la vie. Ou un peu borgne.
Professeur, elle a tout dérangé. Bon, on pourrait vous mettre une échelle. Vous ne voudriez pas descendre?
Oh, je préférerais ne pas. Aïe, 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 aïe.
Voilà.
Bon, là, votre personnage, Romain Pajard, oui, on sent qu'il est quand même un petit peu en panique. Hein.
Un petit peu tendu.
Puis, il faut dire aussi que votre savant, qu'est-ce qui se passe là? Il est dans sa tour d'ivoire. Il a peur de quoi? Qu'est-ce qui lui arrive?
Le musée est censé ouvrir. Ça fait 10 ans qu'on est en train, 10 ans de recherche pour créer ce musée, des mois de travaux pour qu'enfin il ouvre. Et là, à quelques jours de l'ouverture, le grand patron, mon professeur, comme je l'appelle, se rend compte que ça ne va pas être possible. Parce que tout ce qu'il pense savoir, tout ce que... Il remet tout en question. C'est ce que je veux dire. Tout en question, ce qui est un peu la panique pour moi, puisque moi, je n'espère qu'une chose, c'est que ce musée ouvre. Et le personnage d'Emma qui arrive, qui, elle, apparemment, elle a fait une seule année d'études d'histoire. Et donc c'est impossible que quelqu'un vienne tout bouleverser dans ce musée-là, qui va enfin ouvrir.
Mais oui, mais d'ailleurs, alors c'est le seul personnage féminin de la pièce, d'ailleurs, oui, cette documentaliste. C'est pas bien, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, elle dit qu'elle n'a fait qu'un an d'histoire. Elle est pleine d'idées. Qu'est-ce qu'elle défend, Mathieu Bauer? Et d'où parle-t-elle, comme on disait?
Alors la figure, elle vient quand même, je l'ai emprunté énormément à un film qui m'est très très cher, qui s'appelle L'incroyable Monsieur Bébé d'Howard Hawks. Et on a Cary Grant comme ça, qui commence d'ailleurs en haut d'un échafaudage, qui attend, il a un brontosaure en face de lui, il est paléontologue, il lui manque plus qu'une pièce pour constituer son puzzle et achever enfin sa grande œuvre. Mais on se rend compte qu'il est pris d'une certaine mélancolie, d'une tristesse. Enfin voilà, il doit se marier, mais c'est un mariage un peu... Bon, un mariage comme ça, un peu arrangé entre... Et puis, dans ce film, arrive Catherine Hepburn, et Catherine Hepburn va créer du chaos. Voilà, Tout d'un coup, il va y avoir des accidents, du chaos, et la question du désir, en tout cas, du désir pour l'autre, pour le monde, du désir pour la vie, va ressurgir. Et donc, j'avais envie, effectivement, que ce personnage s'apparente un tout petit peu à Cary Grant, comme ça, qui refuse de... Tout d'un coup, cette sorte... Enfin, si, il va chercher des sous. Enfin, il y a l'administration qui l'emmerde. Enfin, ça, c'est le film, mais voilà. Donc, j'avais ça en tête d'un monde comme ça qui aurait perdu un peu ce que j'appelle... des passions tristes, quoi, de ce monde dans lequel on est un tout petit peu. Et j'avais envie d'un personnage truculent, pétillant, qui fait effectivement des catastrophes, qui dit, bon, c'est bien gentil, mais tout ça est quand même un peu sous vide, c'est un peu poussiéreux, c'est derrière des vitrines. Et elle rêve d'une chose, mais d'ailleurs, il n'y a pas d'autre candidat, hein, elle le dit, elle vient là, elle se dit, tiens, il y a un poste, je vais aller là-dedans. Et elle, son rêve, c'est de faire de la comédie musicale. Et pour moi, même chose, c'est une référence un tout petit peu à, là, pour le coup, à mon enfance, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que face à Jane Kelly, après-guerre, j'ai l'impression que tout d'un coup, on a dansé le monde et on a chanté le monde. Donc il y avait quelque chose de cet ordre-là, de cet enthousiasme-là que j'avais envie de d'insuffler dans le spectacle. Et c'est vrai que c'est Emma Liégeois qui le fait avec beaucoup de grâce,
elle chante merveilleusement bien aussi.
Et elle va embarquer tout le monde avec elle, c'est ça qui est super.
Parce que très rapidement,
tout le monde se dit, mais pourquoi pas, et on va y aller, alors dansons, essayons modestement, alors avec des costumes qui... Puisqu'elle a pris quelques costumes, on a l'impression que c'est Satan qui lui a fait ça dans des vieux rideaux avec des poils, et donc on se retrouve tous avec des costumes en poils, à essayer de rejouer une partition, et en faisant cette espèce de comédie musicale, effectivement, autour du Paléolithic Story, tout en traitant, c'était aussi une façon, j'avoue aussi, de convoquer plein de sujets, puisque c'est un puits sans fond, l'anthropologie, donc il fallait comme ça que j'arrive à agréger tous les sujets, enfin toutes les thèses en tout cas, puisque c'est aussi un jeu d'enquête sur la façon dont on fait parler un tout petit peu l'histoire et qui a écrit l'histoire, etc. Donc elle est là pour faire de la polémique, quoi, pour envoyer la balle, pour faire du ping-pong, pour faire de la spoonball comédie. Toute la vitesse d'exécution sur la première scène. Vous voulez dire quelque chose?
J'aimerais bien.
Excusez-moi, une fois que je suis lancée, c'est comme les jukebox.
Je suis claqueur de doigts. Non, mais là, on vient de l'entendre chanter un extrait des Noces de Figaro de Mozart. Et ce que je voulais dire aussi, c'est quand même précision très importante, c'est que la musique, elle est jouée en scène, en direct, par votre complice et compositeur Sylvain Cartigny, que vous évoquiez tout à l'heure, Lawrence Williams et vous, notamment cette chanson un peu incantatoire que votre personnage, Romain Pajard, interprète avec Emma Liégeois.
Il y a 4,5 milliards d'années.
Formation de la Terre.
Il y a 3,8 milliards d'années.
Premiers éléments porteurs de vie.
Il y a 570 millions d'années.
Premiers animaux.
Il y a 230 millions d'années.
Les dinosaures. Les âges de l'humanité. Il y a 3 millions d'années.
Le paléolithique inférieur.
Il y a 300 000 ans.
Le paléolithique moyen.
Il y a 45 000 ans.
Le paléolithique supérieur.
Il y a 12 000 ans.
Le néolithique.
Make a monkey out of a man, she made a man out of a monkey.
Into the bag, come on, get out of a man, she made a man out of a monkey.
Into the bag, come on, get out of a man, she made a man out of a monkey.
Into the bag, a monkey out of a man, she made a man out of a monkey.
Into the bag, a monkey out of a man, she made a man out of a monkey.
Bon, alors là, il n'y a pas de problème, Romain Pajard, elle vous a bien embarqué. Et je me suis demandé, parce que vous mettez une énergie folle tous les deux dans cette scène, quand même très rock, est-ce que vous avez une formation musicale ou est-ce que c'est Mathieu Bauer qui vous a embarqué dans cette affaire?
Alors Emma, pour sûr, a une formation musicale en chant, que moi aussi j'ai eu un petit peu au TNS, on a fait la même formation avec Emma à Strasbourg. En danse aussi, on a chacun nos petits trucs. Mais c'est sûr qu'avec Mathieu, on a quand même fait plusieurs spectacles avec Mathieu. Là, c'est le quatrième ou cinquième qu'on fait ensemble. Donc la musique fait partie intégrante de tous ces projets. Donc c'est sûr qu'il y a un rapport au rythme qu'on a maintenant avec Mathieu. On peut se comprendre assez rapidement sur... on sait qu'il va y avoir toute la musique de Sylvain, Mathieu est là avec Lawrence. Et nous, comment on va travailler notre texte à l'intérieur, comment on va rythmer tout ça. Et une fois qu'on a ça, on peut s'amuser, nous, à... Bah, par exemple, à danser cette scène-là, on adore avec Emma, c'est une scène vraiment qu'on...
Oui, on voit, c'est très jubilatoire, on sent que vous y prenez pas mal de plaisir. Oui. Et cette musique, comment est-ce qu'elle a été composée, Mathieu Bauer, justement? C'est du sur-mesure par rapport aux trois personnages, ou vous avez réfléchi aussi avec Sylvain Cartigny au comédien qu'il incarne.
C'est toujours difficile. Mais d'où vient ce qui vient à l'esprit? Comment on construit des choses? Moi, j'arrive avec des matériaux. Il y avait beaucoup de livres, pas mal d'ouvrages. Il y avait cette question du vertige, puisque la première répétition, c'est vrai. Non, je pense à ça parce que là, on remet toutes les datations à un moment donné. Parce qu'à l'échelle de l'humanité, c'est quand même assez vertigineux tout d'un coup de se rendre compte que ce qu'on appelle le monde moderne, c'est-à-dire les deux derniers siècles, 19e, 20e et 21e, c'est... Hop, c'est fini. Hop,
oui.
Ça n'existe.
Oui, oui.
C'est une chose comme ça, il faut bien s'en rendre compte, parce que 35 000 ans, c'est assez énorme, quoi, et nos ancêtres ont vécu pendant des années sur d'autres types d'organisations. Donc ça ne répond pas du tout à la question sur la musique.
Non,
donc,
mais j'arrive ça apporte aussi... une précision qui est importante, c'est qu'effectivement, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore vu le spectacle, il y a un écran qui projette les dates charnières.
Oui, il me semblait que c'était important de repartager ça avec les spectateurs, pour que ça sache d'où on parle, de quoi il est question, même sur la question géologique, sur la question effectivement du climat, c'est pas les mêmes, c'est la dernière période de glaciation, on n'est pas exactement au même endroit, enfin je veux dire, et ça a une incidence directement sur les usages que font les êtres humains de la Terre et de la façon dont ils s'organisent. Donc ça c'est une chose, et puis après on travaille comme, j'ai envie de dire un peu comme d'habitude avec Sylvain, il y a un certain nombre de morceaux qui font aussi partie comme ça un peu du background du spectacle. Il y avait par exemple un morceau de Spike Jonze que j'aimais bien parce que c'est, ça s'appelle Tuer les classiques et que j'avais envie de tuer les récits classiques. Donc il y a juste une association d'idées un peu stupide mais qui me paraissait aussi répondre à la question de la comédie musicale. Donc on fait ce à qui suis-je une madame, ou dans lequel Romain a une partie pratiquement de solo de danse absolument magnifique mais qui est un clin d'œil à la comédie musicale, et en même temps derrière il y a comment on déconstruit effectivement une chanson classique et comment on va déconstruire le récit. Donc ça c'est des associations d'idées. Après il y a des textes théoriques, ça c'est des choses qu'on a beaucoup faites avec Sylvain, de mettre en musique de la pensée d'une certaine façon. Alors puisque les précédents spectacles, même dans le Buster que vous avez vu, il y a quand même un conférencier à un moment donné qui donne des éléments, enfin c'est d'autres portes d'entrée. Et puis c'est vrai que les textes théoriques se prêtent souvent assez bien à la composition musicale, c'est-à-dire toute l'organisation, la pensée, la façon dont elle est construite, etc., etc., permet comme ça de naviguer avec la musique, le texte, la musique, ce Sprechgesang que je revendique un tout petit peu, puisque c'est pas
Sprechgesang, c'est-à-dire
oui, parler chanté, oui, voilà, qui appartient à une tradition plutôt de la comédie musicale allemande, etc., mais qu'on a fait nôtre avec nos petits moyens en France au bout d'un moment. Donc voilà. Et puis après, oui, il y a une berceuse, par exemple, parce qu'on pense que c'est le premier chant ou la première chose qui a été inventée par les êtres humains. Bah, c'est une berceuse, puisque c'est la chose la plus naturelle qu'on a tendance à faire, c'est de prendre un enfant dans ses bras et puis de le consoler en lui chantant quelque chose. Donc on imagine que c'est forcément la première musique qui est apparue sur Terre. Donc il y a plein de clins d'œil comme ça qui se construisent autour à la fois de la thématique et puis parfois, tout simplement par nécessité, Sylvain m'a ramené un bon vieux rock qui s'appelle Primitif. Et on se disait, tiens, c'est pas mal. Où il dit, moi, je veux être un primitif, j'en ai rien à faire de tout ça. Et ça allait bien avec ce vieux ronchon de professeur, même si à un moment donné, c'était moi qui le chantais, puisque... mais voilà, ça lui était adressé. Donc voilà, c'est des associations. Et puis ensuite, selon les spectacles, parce que celui-là amène une musique un peu particulière, puisque évidemment, il y a la comédie musicale. Mais selon les spectacles, la musique peut avoir aussi un moteur beaucoup plus prégnant, enfin, en termes d'écriture, de dramaturgie. Sur celui qu'on va... On va en présenter un là, à Avignon cet été qui s'appelle Femme Capitale, où là, il y a vraiment une voix et une partition tout du long. Donc, c'est 1h10 de musique, 1h10 de texte.
Bah
et là, ça va vraiment ensemble, quoi. Ça avance ensemble, les deux choses. Voilà. Là, c'est un peu plus fragmenté, on va dire.
Bah, écoutons justement un autre fragment.
Exerçons nos yeux. Regardons encore. Regardons mieux.
grand morceau. Alors pendant 1h30, c'est une immersion très documentée, effectivement. Vous déconstruisez de façon drôle et touchante ce qu'on sait de la préhistoire, Mathieu Bauer. C'est décalé, alors j'avoue personnellement ne pas m'être rendu compte du moment où on se met à basculer dans la préhistoire. Quand est-ce que vos trois personnages plongent et nous avec? C'est la magie du théâtre, vous me direz. Mais donc à un moment donné, vous êtes tous habillés en peau de bête blanche et marron. Il y a une scène anthropophage aussi où on voit des personnages manger de la fausse chair humaine, Mathieu Heureux. Et pourquoi Mathieu Bauer, est-ce que vous avez costumé ainsi vos personnages? Pourquoi est-ce que vous avez voulu jouer avec ces représentations?
C'est une très bonne question.
Il y a un petit trait d'humour derrière. C'est-à-dire que c'est une petite image d'épinal, effectivement, des représentations qu'on se fait des hommes préhistoriques en peau de bête. Donc c'est une interprétation avec effectivement des peaux de bêtes comme ça qui nous permet à un moment donné d'essayer de... Parce qu'il y a ce récit classique quand même de cette espèce d'âge d'or qu'on aurait laissé derrière nous, c'est-à-dire l'homme à l'état de nature, c'est le jardin d'Éden. Donc cette première scène où on a ces peaux de bêtes, on vague dans l'espace, on se dit « Ah, tout va bien », etc. Il n'y a pas ces sociétés égalitaires, hommes, femmes, on ne sait pas très bien, sur la division du travail, il n'y a pas de chef à proprement parler, éventuellement des chamans, mais on s'organise, on prend soin les uns des autres. Bon, cette image un peu comme ça, un peu naïve, et donc c'était une façon de faire un clin d'œil à cette image un peu naïve, et puis même en termes de représentation de la naïveté qu'on peut avoir, ce qu'on disait en début d'émission sur « C'est quoi votre première image ?» Effectivement, Romain, tout de suite, les peaux de bête, et moi aussi, c'est vrai.
Un peu bêtement, et pas de massue.
Voilà, les peaux de bête.
Pas de massue.
Et puis anthropophage, parce que là, c'est plus un plaisir qu'on a à manger, à un moment donné, à dévorer un chef. Enfin, celui qui s'autoproclame chef. Et de voir comment on peut ingurgiter ces chefs et aujourd'hui, en même temps, bouffer la dette.
Et puis alors, ce que vous faites aussi, c'est que vous jouez énormément sur les anachronismes. Après avoir trouvé des livres et des instruments de musique, les chasseurs-cueilleurs boivent des bières, fument des cigarettes ou des pétards, on ne sait pas trop, je pencherai plutôt pour la deuxième option, le tout tranquillement autour d'un frigo. Romain Pajard, oui. Accroupi, tapis, vous vous glissez dans la peau d'un journaliste en terre inconnue caché derrière un buisson.
Voici nos chasseurs-cueilleurs. Un petit groupe d'individus qui ont choisi de s'associer pour leur survie. Ils ne travaillent de manière visible qu'une poignée d'heures par jour. Le reste du temps, c'est l'intermittence. Du corps, du cœur, de l'esprit. Ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent sur leur passage. Boivent abondamment. Deux boissons qu'ils alternent. Des tasses fumantes dans liquide noir et de grands verres dans liquide doré. Oui, le houblon a des propriétés très nourrissantes. C'est un peuple joyeux. Oh, festif. Facilement distrait. Mais passif. Voyez maintenant comme la fumée les a détendus. Ils méditent. En fonction de leurs besoins, ils consomment à peine l'équivalent de 5 à 10 euros par jour. Notre petite société nomade se déplace aisément. Tout doit pouvoir tenir sur leur dos, dans une caisse ou une petite. Un petit sac à roulettes. Ils voyagent d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Ils ne possèdent pas l'espace, mais on repousse les frontières. Pour eux, le point d'eau n'existe que pour être quitté. Seul compte le déplacement, l'intervalle, et non le point d'arrivée. Et maintenant, observons et écoutons.
On n'y voit rien ici. Je vois pas où je marche.
Quelqu'un a un briquet.
Sylvain, ton briquet.
Ah, j'en ai plus.
Mais comment ça, t'as arrêté de fumer?
Ben non, j'ai une clope électronique.
Mais ça, ça fait pas de lumière.
Ouais, ben non.
Qu'est-ce que tu proposes alors? On frotte des cailloux?
Un extrait bien déjanté de Paléolithique Story, mise en scène par Mathieu Bauer, qui est avec nous dans VMDN sur RFI, en compagnie du comédien Romain Pajard. Romain, est-ce que c'est jubilatoire de jouer en peau de bête en fumant des cigarettes?
Oui, la réponse est oui. Non, c'est... Ouais, bien sûr, ce spectacle est très, très jubilatoire pour nous. J'ai l'impression qu'il y a énormément de virages pendant le spectacle. Enfin, nous, en tout cas, pour nous, les trois acteurs, on doit passer d'une scène presque vaudeville à un truc comédie musicale, ensuite une scène de conférence qui est juste après une scène de, où on mange, on fait un banquet, où on dévore en parlant différentes langues un des autres personnages. Donc il y a quelque chose de très très joyeux de passer d'une tonalité de scène à quelque chose de complètement différent. Ça fait des ruptures et entre nous il y a quelque chose de très complice.
Et alors, qu'est-ce que vous êtes raconté pour jouer cette scène, par exemple ?
Moi, ce que je me raconte, à partir du moment où on met nos petits, nos beaux costumes en peau de bête, je me raconte qu'on est en train de faire de nouvelles expériences, d'essayer de proposer différemment des versions possibles de ce qu'aurait pu être la vie de manière beaucoup plus ludique, fantaisiste. Et donc là, je me raconte à ce moment-là qu'effectivement, au lieu de faire une présentation très basique de ce que pourraient être trois chasseurs-cueilleurs, que là, grâce au personnage d'Emma, maintenant, on réinvente différemment. Et donc, on propose une sorte de mise en scène comme ça, avec un frigo, une petite branche, et on raconte, on fait des parallèles entre aujourd'hui et ce temps-là. Oui, c'est ça, c'est tout ce que propose Emma et en fait Mathieu à travers ce spectacle, c'est-à-dire réécrire l'histoire et la proposer différemment.
Et ces anachronismes, juste, Mathieu,
vous... On doit quand même tout cet humour, je lui rends justice. C'est Marion Stanton qui m'a beaucoup aidé à un moment donné à écrire, et c'est elle qui a trouvé cette liberté de ton que moi je ne trouvais pas forcément, j'avoue, dans les livres.
Puisque
moi,
c'est vrai parce que les...
Non, j'ai toujours eu pas mal d'humour.
Oui, parce qu'on vous sent très à l'aise quand même avec les pots de bête, les cigarettes et les bières.
Oui, bien sûr, on l'a défini ensemble et j'avais vraiment ce désir-là à un moment donné qu'on prenne un peu de recul et qu'on mette un peu à distance et qu'il y ait cet humour-là. Mais c'est vrai que c'est l'écriture de Marion qui est revenue là-dessus. À partir du moment où moi, je lui avais donné un canevas avec plein de références, on avait une première structure. Mais c'est aussi son verbe et son agilité, par exemple, sur cette scène-là. Plus particulièrement, on doit ça à Marion Stanton. Voilà.
Puis alors, ce spectacle, c'est aussi l'opportunité, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, d'interroger nos représentations, nos clichés. Comme dans cette scène où vos personnages qui trouvent une nouvelle grotte, enfin retrouvent une grotte d'enfance peut-être, sont absolument extatiques. Romain Pajard, vous offrez des fleurs, vous jouez de la musique, vous peignez, bref, tout va bien.
Voilà notre passé commun. Sur toute la planète, l'homme a commencé par vivre de la chasse et de la cueillette en utilisant la pierre taillée. Les individus du groupe étaient tous liés, car la survie de l'espèce dépendait de la préservation du groupe. On partage tout, puisqu'on cueille, chasse, se repère. Puisqu'on ne travaille que 3 heures par jour pour subvenir à nos besoins, on passe notre temps libre à perfectionner nos outils, nos flûtes qu'on taille dans des fémurs de vautours. On les perce à intervalles choisis pour une organisation de sons pentatoniques propres à accompagner nos récits et nos chants. Oh oh.
Ils sont très très cool ces chasseurs-cueilleurs. Alors pour que les auditeurs imaginent bien, quant à vous Mathieu Bauer, à ce moment-là vous êtes torse nu avec des petits chaussons en fourrure très tranquille. Moi ce passage...
C'est des boots hein.
C'est des boots.
Je suis pas aux chaussons sur un plateau quand même.
En boots.
Pas de tenue.
Boots de fourrure. Mais moi ça m'a fait penser au mouvement hippie, au flower power. Ouais. C'est ça que vous aviez en tête?
Un petit peu oui, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ouais.
Ça vous a rêvé ces utopies?
Vu la situation aujourd'hui, j'avoue que de temps en temps j'en ai un peu la nostalgie. Je l'ai pas connu, on me l'a raconté, mais je me dis qu'il y a quelque chose. Il y a quand même un voilà. C'est aussi un spectacle qui répond à la dureté du monde dans lequel on est aujourd'hui, avec pas mal d'angoisse à tous les niveaux sur l'anthropocène, etc. Mais on voit bien, on en se refaisait la réflexion. Évidemment, ça répond aussi. Ouais, il y a quelque chose de très très au présent quand même avec tout ça. C'est-à-dire que offrir des alternatives, d'autres récits, se sortir un peu des les impasses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est jubilatoire. Enfin, on a intérêt à le faire parce que sinon, on va se consumer très très vite tous, les uns et les autres. Enfin, je trouve qu'il y a une violence qui s'exerce aujourd'hui qui est terrible. Enfin, on le voit encore aujourd'hui. Voilà, j'ai pris le métro comme tout le monde, j'ai lu Le Monde, j'ai lu Libé, etc. On voit bien comment la répression, le fascisme est en train de triompher un peu partout. Alors, je ne sais pas si on va résoudre ça avec des chasseurs-cueilleurs. Et il ne s'agit pas de faire du survivalisme et d'aller vivre dans la forêt comme nos ancêtres. Mais en tout cas, il va falloir se sortir de cette impasse, ça c'est sûr.
Puis alors, ce qui est très agréable, c'est que vous faites entendre une pluralité de points de vue dans la pièce sans jamais résoudre quoi que ce soit. C'est vraiment plein de pistes que vous ouvrez. Chacun essaie de comprendre. Alors, vous portez un regard qui parfois est assez ironique là-dessus. Si les chasseurs-cueilleurs étaient plutôt communistes, étaient plutôt capitalistes. Vous, Romain Pajard, votre personnage, il se méfie des anachronismes qu'ont tendance à inventer les chercheurs, parce que c'est ce que vous montrez dans tout le spectacle aussi, Mathieu Bauer, et le texte est très fin en ça. C'est que chaque période, en fait, à chaque moment que des scientifiques vont s'emparer de ces phénomènes, ils vont projeter leur propre grille de lecture sur leurs objets d'études. Et alors vous, votre personnage, à un moment donné, il explique que le paléocapitalisme, le primo-socialisme, ça ne l'intéresse pas. Lui, il invente l'hétérarchisme.
L'hétérarchie,
si oui. Je me souviens bien.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est ?
Ben là, alors, l'hétérarchie. Ben oui, du coup, c'est mon texte sur la partie de la conférence. Ben, l'hétérarchie, c'est un système qui, en gros, c'est ça que je dis dans la pièce, qui favorise l'interrelation et la coopération entre les membres.
À la communauté. Place,
voilà, entre les membres de la même communauté plutôt qu'une structure ascendante. Et qu'en gros, ce que ça sous-entend, c'est que c'est un pouvoir qui serait décentré, transformable. Et c'est surtout ça, et d'ailleurs, à chaque fois que Mathieu, on se dit que c'est très important à ce moment du spectacle, qui est un pouvoir qui tend à toujours privilégier une partie de liberté et d'initiative pour tous les membres de la communauté. Et donc, du coup, ce serait un pouvoir qui serait potentiellement, qui pourrait renverser les statuts. Et que les statuts ne soient pas fixes ou figés, que ça puisse bouger. Ça serait ça, l'hétérarchie. C'est une option.
Mais alors, voilà. En parlant de statuts qui ne sont pas fixes et qui bougent, Mathieu Bauer, il se trouve que vous jouez ce spectacle donc, où il est question du moment où les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent au théâtre de Montreuil, dont vous vous êtes désédentarisé, puisque vous venez d'en quitter la direction pour reprendre la vie en compagnie, comme on dit, la vie itinérante d'un homme de théâtre. Est-ce que c'est un clin d'œil, du coup, ce spectacle ?
Peut-être, oui. Je crois, oui, qu'il y a quelque chose que j'avais envie, comme ça, de marquer d'une façon un peu singulière. C'est-à-dire, oui, pendant 10 ans, j'ai été effectivement directeur d'un lieu, j'aimais le faire vivre, c'était un endroit, c'était inscrit. Après, ça s'inscrivait dans un territoire, et évidemment, alors là, on parlait territoire, j'allais fouiller, farfouiller, rencontrer des gens, créer des partenariats, tisser des liens, des passerelles. Donc, c'était formidable, mais c'était voilà, une sorte de refuge, quoi. J'avais ma grotte, d'une certaine façon. Une grotte, j'avais mon Lascaux. En plus, on avait fait de la sérigraphie sur tous les murs, donc j'avais fait aussi de l'art pariétal, d'une certaine façon, dans cette grotte. Et maintenant, j'ai eu grand plaisir, effectivement, à retrouver une forme de nomadisme, d'aller travailler chez d'autres, rencontrer d'autres gens, sortir un peu de ce territoire, même si je suis très attaché quand même à la Seine-Saint-Denis, je dois bien le dire. J'aime terriblement ce territoire pour de multiples raisons. D'une part, parce que je l'ai pratiqué énormément et puisque je trouve qu'il y a une vitalité absolument incroyable. Enfin, il y a une histoire qui me touche, il y a une jeunesse, voilà, il y a un tissu associatif, il y a des... voilà, donc j'aime beaucoup ce territoire, comme on dit, si on prend un terme aussi qui est lié à l'anthropologie.
Oui. Et Romain Pajard, pour un jeune comédien, non pas que vous soyez vieux, mais pour un jeune comédien comme vous qui sort de l'école du TNS, le Théâtre National de Strasbourg, est-ce que justement l'idée qu'on peut avoir derrière une compagnie de théâtre, là c'est votre 4e spectacle avec Mathieu Bauer, donc vous retrouvez aussi des comédiens avec lesquels vous avez travaillé, des musiciens avec lesquels vous travaillez. Est-ce que pour vous, l'idée de tribu aussi, tribu, compagnie, c'est quelque chose qui fait sens aujourd'hui ?
Ah, moi, c'est absolument pour ça d'ailleurs que je fais ce métier, c'est pour travailler en groupe, pour travailler en collectif. Alors pas forcément collectif, je suis tout à fait d'accord sur la répartition des responsabilités, tout ça, mais travailler ensemble et se retrouver, moi je trouve que c'est, en tout cas c'est ça qui me touche. Et d'ailleurs j'ai l'impression que la plupart des projets que je fais depuis la fin du TNS, c'est avec des gens avec qui j'ai travaillé une fois, je retravaille deux fois, trois fois, quatre fois. Une fidélité qui me parle beaucoup, oui.
C'est les choses les plus difficiles au théâtre, c'est le langage commun. Pour se comprendre entre un metteur en scène et un comédien sur un plateau, c'est de quoi on parle. Quand je dis à Romain, sois un peu plus concret, la première fois qu'on a travaillé ensemble, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu entends par concret? Donc on a dû définir ensemble ce qui était concret.
Et maintenant,
Romain, sois un peu plus concret et on se comprend. Et au-delà de ça, c'est des références. Enfin, là, c'est un exemple très, très précis, mais c'est aussi des références communes, une façon de faire, une façon de travailler qui est... Enfin, moi, je viens du collectif, hein, voilà, et Terrarchim va assez bien. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu formidable, le théâtre, pour ça. On travaille à plusieurs. Il n'y a jamais un metteur en scène, le démiurge comme ça, qui va tout organiser. Bien sûr, ça se fait aussi par les propositions que peuvent me faire et les musiciens, et les comédiens sur un plateau, et les auteurs, et un éclairagiste, etc.
Bon, et tout ça fait partie des forces de ce beau spectacle. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Bauer et Romain Pajard. Paléolithique Story de Marion Stanton et Lazare Bogossian, mise en scène par Mathieu Bauer, est à voir jusqu'au 1er avril au Théâtre Public de Montreuil. À noter aussi que vous serez au Festival d'Avignon avec Femme Capitale, vous l'évoquiez tout à l'heure. Ce sera à la Manufacture du 7 au 24 juillet.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Candera de Michael Makembe dans VMDN sur RFI. Alors on quitte la préhistoire, on part à Paris aujourd'hui avec Laura Dulieu qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laura.
Bonjour Marjorie.
Alors vous nous parlez d'art non pas préhistorique mais contemporain avec le festival Afrique Capitale. Il en a été beaucoup question dans l'émission. Cette année c'était le Rwanda et Kigali qui étaient à l'honneur avec toute la scène des nouveaux artistes, photographes, stylistes, musiciens. Et hier soir c'était le concert de clôture au Lavoir Moderne parisien, salle que j'aime tant, dans le quartier de la Goutte d'Or, avec une étoile montante de la scène musicale rwandaise, Michael Makembe, qu'on entend. Vous y étiez, Laura Dulieu, et vous avez rencontré l'artiste.
Et c'était absolument formidable, Marjorie. Et je vous livre mon ressenti un peu à chaud, c'était hier soir, mais c'était formidable. Michael Makembe, que vous entendez, c'était le début du concert. C'est l'incarnation même de toute cette nouvelle génération qui émerge sur la scène artistique rwandaise. Cette génération née après 1994 et qui doit donc se construire entre d'un côté une histoire particulièrement lourde et traumatisante, le génocide, et de l'autre un avenir où tout est possible. Alors pour trouver sa voie là-dedans, Michael Makembe fusionne les sons, les instruments, les traditionnels et les instruments traditionnels rwandais et ses propres compositions aux influences plutôt afrobeat. Donc sur scène, guitare électrique et synthétiseur cohabitent avec ces instruments traditionnels.
Ikembe.
And what is it?
Ikembe,
c'est un de nos instruments traditionnels. C'est très populaire en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. J'essaie de le faire revenir car la plupart des gens et des musiciens l'ont oublié.
Isacheka,
c'est normalement une sorte de jarre qu'on utilise pour boire le vin. J'en fais un instrument, alors que dans ma culture, c'est un outil traditionnel. Je l'utilise en le secouant comme une maracas. Et avec le ikembe, la guitare, le synthétiseur, ma voix, cela crée une signature, un nouveau style. Les gens peuvent identifier une nouvelle influence de musique entre tradition et modernité, une nouvelle fusion de la musique.
Et Ikembe, Marjorie, vous savez, c'est cet instrument avec des lamelles en fer fixées sur une petite cassette en bois. Si, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Et tout ça, c'est composé, fusionné, relié par une loop station. Ce sont toutes ces pédales à utiliser au pied qui enregistrent en live, on voit ça souvent en concert, à enregistrer en live des sons et qui permet donc d'en faire des boucles. Michael Makembe en chaussettes, du coup, pour l'utiliser et tourner les boutons, en a fait la pièce maîtresse de sa performance.
C'est un outil qui m'aide à travailler des sons, à improviser, à capter et ainsi développer mes compositions. J'aime beaucoup le loop parce que c'est une technologie qui permet d'enregistrer mes mélodies traditionnelles, mes rythmes traditionnels. C'est aussi une belle image de la modernité qui permet de ramener les traditions dans la musique actuelle.
Et tout ça, vous me disiez, Laura, ça permet donc à l'artiste de construire sa propre identité artistique et personnelle.
Absolument, entre tradition et modernité, il en fait le cœur de sa performance et de sa musique, construire le futur sans oublier le passé, mais rien à voir avec de la nostalgie, les traditions sont tournées vers l'avenir.
As an artist, for me,
j'utilise les traditions pour le présent, mais aussi pour le futur. Je suis de cette génération née avec un synthétiseur, le piano et avec des technologies. Je ne veux pas perdre ça, mais je ne veux pas non plus perdre mes traditions. Je veux ramener toutes ces influences dans ma performance et dans ma vie quotidienne. Pour moi, tradition et modernité, ça veut dire beaucoup. C'est moi.
Et on ne parle pas là que de musique et d'instruments, on parle aussi de sons, d'ambiance, de rues, de villages. En fait, Michael Makembe, il a l'enregistrement très facile, presque frénétique.
What I did is to go record for myself.
Je suis allé enregistrer à travers mon pays, comme vous avec votre micro. Moi, je suis allé voir les miens, mes connaissances, toutes les personnes qui pouvaient m'apprendre quelque chose. Et je les enregistrais, j'apprenais et je me nourrissais de tout cela. Mais maintenant, je vois aussi que c'est quelque chose que veut la nouvelle génération au Rwanda. Apprendre, analyser, comprendre les traditions.
Recording, archiving the traditional sounds since 2018.
J'archive tous ces sons depuis 2018 et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'artistes, de gens, de parents, les jeunes qui écouteront ces sons que j'ai enregistrés.
Consume my sounds that I've recorded.
Et tout ça donc pour construire l'histoire et la mémoire. L'histoire, c'est pas que des livres, c'est pas que les images, c'est aussi le son, la musique, les chants, et c'est encore plus pertinent pour le Rwanda, m'explique Michael Makembe.
Recording songs,
en enregistrant des sons et des musiques dans mon pays, dans ma maison, le Rwanda, je dirais que toutes les informations, les émotions, les histoires sont dans la musique. On chante, on sort notre voix. C'est très important d'enregistrer ça. C'est comme une base de données.
Alors, mais que faire avec tous ces sons? Faire de la musique? Oui, il y a des sons de rue, de vie rwandaise qui sont présentes dans ces compositions. Mais Michael Makembe veut aller encore plus loin et c'est l'enjeu de toute cette génération d'artistes, archiver l'histoire, les traditions, les cultures de leur pays. Michael Makembe, il rêve de créer un musée de sons à Kigali.
Belle idée.
I toured the whole country.
J'ai traversé le Rwanda pour capter les musiciens traditionnels, capter les sons traditionnels partout dans le pays, pour les archiver, pour les garder pour le futur. En tant que musicien, je garde ces informations. Ce sont les richesses de mon pays. On pourrait dire que ce sont nos racines, à moi et mes proches.
Of myself and my people. Kumburira bigega rugero rw'intore iyo ni buriya naraye aye 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 aye.
Et c'est pour ça que la nouvelle génération d'artistes rwandais est si importante. C'est avec ses idées, sa volonté et sa liberté de création. Michael Makembe, l'homme qui capture les sons du Rwanda. Vous pouvez retrouver ses projets sur YouTube, SoundCloud et sur toutes les plateformes d'écoute.
Bah merci beaucoup Laura, je suis sûre que les auditeurs n'y manqueront pas. On se retrouve demain dans VMDN. On parlera peinture à l'occasion de l'exposition Manet-Degas, un événement qui se tient au musée d'Orsay. Merci à Pierre Plantier qui a réalisé cette émission et à Baptiste Antoine qui l'a préparée, le tout avec brio. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et vous m'en direz des nouvelles.